Ok. Alors moi, c'est Noémie Baudin. Mon collègue s'appelle Alexandre Beaufoy. Et en fait, donc, notre mission de service civique consiste exactement à en fait, accompagner des étudiants, ou plutôt des futurs étudiants, dans toute leur démarche pour s'inscrire à l'université et en rapport avec l'université, en fait.
Oui, et d'autre part, on fait aussi beaucoup d'orientation, c'est-à-dire qu'en fonction de leurs besoins, on va les orienter vers les services de l'université qui les concernent et qui pourront les aider. Bien sûr, notre boulot, c'est pas exactement de tout connaître, mais c'est de savoir connaître un peu tous les services, même hors université, qui pourront les aider dans le domaine souhaité.
Alors, qu'on soit clair et que ce soit clair aussi pour nos auditeurs, c'est des étudiants étrangers, demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre d'étudiants vous gérez ?
Alors, ce sont des étudiants étrangers qui peuvent donc être réfugiés, demandeurs d'asile ou même sans papier.
Dans le sens où la définition d'un étranger, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française. Donc, à partir de là, on peut... Comme elle a dit, on peut être demandeur d'asile, réfugié, débouté, sans papier, débouté du droit d'asile, du coup, sans papier, et etc.
Alors justement, quelle est la différence entre un immigré, avec tous ces termes en fait, un immigré, un demandeur d'asile, un sans papier? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et mettre un peu ces choses-là au clair? Parce que souvent on a tendance aussi à mélanger tous les mots, mais ils ont une signification aussi particulière.
Oui, ce qu'on va appeler un sans-papier, c'est une personne qui vit en situation irrégulière sur le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de papier ou quoi, c'est juste que sa situation est irrégulière sur le territoire. Cette situation peut arriver lorsque la personne, par exemple, je prends un exemple, cette personne a suivi un parcours de demandeur d'asile. Sa demande d'asile n'a pas abouti. Donc ça veut dire qu'il a été rejeté au niveau de l'OFPRA et de la CNDA, ce qui débouche sur une personne qui a le statut de débouté du droit d'asile. Et c'est des cas qu'on rencontre, nous, en tant que service civique de l'université, qui sont donc sans papier.
Et ce statut joue beaucoup ? Parce que, en fait, selon si les personnes sont réfugiées ou demandeurs d'asile, il y a des choses qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, par exemple, quand ils n'ont pas de papier ou qu'ils sont en demande d'asile, ils ne peuvent pas travailler. Et quand ils sont réfugiés, ils le peuvent. Donc, ça peut jouer, par exemple, sur des stages rémunérés. Par exemple, en tant que nous, par exemple, quand on va orienter quelqu'un, on sait que s'il est demandeur d'asile, on ne pourra pas l'orienter vers une filière professionnalisante avec un stage rémunéré, puisqu'il ne pourra pas l'effectuer.
Quel genre d'étudiants vous accompagnez ? Est-ce que c'est des gens majoritairement qui viennent de pays en guerre ? Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'Europe de l'Est ? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'Afrique, d'Europe du Nord, des États-Unis ?
Ce sont des personnes qui viennent un peu partout. Ça peut être de l'Afrique, ça peut être Inde, généralement c'est Soudan, Congo et d'autres destinations. Mais c'est pas spécifique à un coin du monde.
Oui, il y a pas. Je pense notamment évidemment à la Syrie, parce qu'il y a beaucoup de déplacés et de gens qui fuient les combats. Mais vous avez pas, par exemple, plus d'étudiants ou de demandeurs d'asile syriens?
Non, pas du tout.
Bizarrement, non.
Bizarrement, non. Ou peut-être qu'ils viennent pas à Tours.
Voilà, peut-être. En tout cas, ils s'adressent pas à nous.
D'accord. Oui, voilà. Parce que oui, effectivement. En quoi consiste finalement cette tâche au quotidien pour les accompagner ? Est-ce que vous les aidez dans la recherche de logement ? Est-ce que vous les aidez sur le plan administratif ? À quel niveau vous les soutenez ?
On va dire que le gros du travail, c'est de les aider à s'inscrire à l'université. Et donc notamment, en fait, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus vers nous pour s'inscrire à l'université trop tard par rapport aux inscriptions administratives, aux délais et tout ça. Et donc nous, après, on a pu contacter les responsables des diplômes pour essayer de les faire s'inscrire un peu plus tardivement. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail. Après, effectivement, il y en a beaucoup qui viennent nous voir par rapport au logement, et c'est un gros souci, justement.
Oui, et par rapport à ça, par rapport à ça, on travaille aussi avec... Il faut savoir qu'on travaille avec une assistante sociale du SSU, Service de Santé Universitaire, Carmel Audin, et on travaille aussi avec le directeur du QFE, qui est le Centre Universitaire d'Études de Français pour les étudiants étrangers. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une personne dans notre bureau, on leur explique les prérequis pour entrer à l'université. C'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau B2 en français, parce que certaines personnes arrivent en France, certaines personnes demandeuses d'asile, mais qui n'ont pas forcément le niveau requis en français. Donc on leur explique qu'il faut avoir le niveau B2 et qu'il faut avoir au minimum un diplôme de fin d'études secondaire.
Oui, parce que le fait de parler français, évidemment, c'est primordial quand on veut faire des études en France.
C'est ça.
Oui, surtout pour pouvoir comprendre les cours, suivre et tout ça, c'est nécessaire. Quoi.
Est-ce que vous les accompagnez du coup dans des démarches aussi de langue, d'apprentissage de la langue française ou pas spécialement?
Alors, ben là, on va les aider par exemple, soit ça va dépendre en fait déjà du niveau qu'ils ont à la base. C'est-à-dire que par exemple, s'ils ont déjà un petit niveau de français, on va les aider à s'inscrire au QFE, en sachant que ça coûte, c'est un organisme qui coûte... les formations du QFE coûtent cher. Et du coup, il y a une commission d'exonération qui existe par rapport à ça. Donc, on va également les orienter vers cette commission. Et sinon, si jamais ils n'ont pas du tout le niveau requis, en fait, du tout, ils ont, on va dire, ce qu'on appelle un niveau A0, en fait, en français, on va plutôt les orienter vers des associations. On a un répertoire, en fait, d'associations qui existent, qui apprennent le français à des étrangers. Et donc, pour commencer à acquérir un niveau et pour après pouvoir peut-être s'inscrire au QFE. Parce que le QFE, non seulement c'est un organisme qui aide à apprendre le français, mais aussi en fait qui forme un peu les gens après en fait à entrer à l'université en fait. C'est-à-dire que ça va donner des bases pour après se débrouiller une fois qu'ils seront inscrits.
Et le QFE, du coup, leur objectif principal, c'est d'emmener leurs apprenants au niveau B2.
D'accord.
Oui.
Et au niveau requis pour entrer à l'université.
Pour entrer à l'université. Combien en tout vous suivez de personnes?
Une vingtaine, je crois. Là, on est pas loin de 25.
Oui, parce qu'on a commencé le 3 juillet.
Alors voilà, vous avez commencé le 3 juillet. J'imagine que c'est aussi en lien par rapport à la rentrée scolaire, puisque, bon, grosso modo, la rentrée, c'est en septembre universitaire.
Oui.
Comment ça se passe depuis juillet? Est-ce que vous accompagnez de plus en plus d'étudiants? Est-ce que c'était déjà ce chiffre-là au début? Comment ça a évolué depuis juillet, votre accompagnement?
En fait, en juillet, on n'avait pas beaucoup de monde, bizarrement. Bizarrement, c'est aussi compréhensible vu que les délais d'inscription arrivaient à leur fin. Ce qui fait qu'on a plus eu une grosse arrivée en septembre. Ce qui fait que ça a évolué pendant ce temps-là, sachant qu'il y a eu 3 semaines de vacances durant le mois d'août. Ce qui fait qu'on arrive à 25 étudiants suivis, qu'on a vraiment suivis, en sachant qu'aussi il y a d'autres étudiants qui viennent à notre bureau, mais qu'on conseille simplement. C'est-à-dire qu'on conseille telle ou telle procédure, et ensuite qu'ils repartent, mais on n'a pas spécialement pris leur nom ou on a pris le temps de noter leur nom ou quoi.
Mais alors toujours des étudiants étrangers, pour le coup.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on rigole, mais tout ce qui est administratif aussi, pour les étudiants français, c'est pas non plus évident.
Non.
Moi, pour sortir des études, je sais pas vous, mais je prends mon cas et j'imagine que c'est le cas aussi de beaucoup d'auditeurs. Il y a énormément de paperasse administrative, il faut le dire, qui sont parfois illisibles pour des personnes qui sont pas spécialement au courant.
C'est ça. Et puis les démarches sont encore plus compliquées quand on est étranger. Donc voilà, imaginez les difficultés d'un français multiplié par 2 en fait.
Ouais. Et voilà. S'il y a la barrière de la langue, multiplié presque par 3 du coup.
Presque par 3,
c'est 3 problèmes en un seul. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à faire ce genre de service civique? Parce que c'est aussi une démarche, le service civique, c'est s'engager dans une mission associative, souvent. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour ce service civique là, et pourquoi pas un autre finalement? Pourquoi pas Radio Campus Tour par exemple?
Pour ma part, c'était pour le côté parce que je voulais en fait apporter une aide concrète pour les étudiants étrangers qui arrivaient, parce que moi j'en connais beaucoup, j'en fréquente beaucoup, et certains ont des lacunes et des difficultés et n'arrivent pas à s'en sortir durant leur parcours universitaire. Et du coup, j'ai vraiment voulu m'investir là-dedans parce que ça me tenait à cœur. Simplement, c'est une mission qui m'a beaucoup plu. J'ai postulé à cette mission parce que, premièrement, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ça, c'est motivant pour la suite. Et aujourd'hui, on arrive à faire un assez bon travail quand même. un assez bon accompagnement, un assez bon suivi. Donc je suis content de ça, mais ce n'est que le début encore.
Alors, pardon, je te coupe Noémie, je ne sais pas si tu voulais parler, mais tu nous as dit hors antenne que tu faisais toi-même des études d'avocat et tu voulais te spécialiser là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que finalement, ce choix de service civique, c'est aussi lié à tes études.
C'est ça, c'est aussi lié à mes études parce que je vais être avocat, spécialiste en droit des étrangers. Et ce service civique m'apporte déjà beaucoup au quotidien. Et ce sera qu'un plus pour moi ensuite, après, parce qu'on rencontre vraiment des cas concrets, on sort un peu de la théorie et on se confronte à la réalité des personnes. Parce que souvent les juristes, on a tendance à prendre les situations comme des cas, alors qu'en service civique, c'est plus le côté humain qui joue et qui parle plus fort qu'autre chose. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait ce service civique parce que c'est vraiment dans mon domaine et voilà, j'aime bien.
Moi, je crois que c'est clair. Hein. Noémie, est-ce que tu auras une réponse aussi comme Alexandre ?
Je sais pas. Non, moi j'avais envie de faire ce service civique parce que ça me tenait à cœur aussi. En fait, j'ai toujours plus ou moins voulu m'investir dans des domaines comme celui-ci et je l'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc là, j'ai vu une belle occasion et puis voilà, ça me fait, quand je rentre chez moi et que je sais que j'ai aidé des gens, ça me fait plaisir quoi.
Parce que toi, pour le coup, tu as fini tes études, c'est ça ? Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce côté humain ? Vous en parlez tous les deux. C'est vrai que ça doit être assez gratifiant finalement de s'occuper de personnes étrangères qui ne comprennent pas spécialement toutes les spécificités administratives, etc. du pays. Donc c'est vraiment se sentir utile. Est-ce que vous le ressentez ça vraiment au quotidien ou vous n'avez pas forcément la reconnaissance que vous méritez ou pas d'ailleurs, hein, c'est une question de point de vue, mais,
si.
Mais je ne sais pas.
Je pense qu'on l'a, cette reconnaissance.
On se sent vraiment utile. Les personnes nous remercient, ils sont vraiment très reconnaissants. Donc, au quotidien, ils sont vraiment utiles, mais il y a aussi des situations assez compliquées. Par exemple, ce qui est relatif au logement, on n'a pas encore de solution satisfaisante concernant le logement, ce qui fait que c'est vraiment très difficile. Autant ça peut être très joyeux de dire à quelqu'un « chouette, on a trouvé quelque chose » et tout. Et dans le cas contraire, ça peut vraiment être un peu déstabilisant d'être confronté au fait qu'il n'y a pas de solution et devoir le dire à la personne. C'est ça qui est un peu compliqué à gérer, mais et dans certains cas, on se sent inutile. Et on aimerait que les choses bougent.
Très frustrant quand on doit dire à quelqu'un mais désolé on peut rien faire quoi.
Ouais, parce que vous êtes pour certains peut-être la dernière solution ou la dernière bouée,
oui,
j'imagine.
En général, c'est souvent qu'ils sont passés d'une association à une autre, d'un organisme à un autre et effectivement.
Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de problèmes de logement pour ces étudiants ? Est-ce qu'il y a des places attitrées qui sont réservées pour les étudiants étrangers ? Je pense notamment dans les services du CROUS, etc., ou pas spécialement. Comment ça se fait que certains étudiants, notamment étrangers, aient des problèmes pour se loger ?
Bah d'abord, le premier problème, c'est qu'ils ont souvent un problème de revenus, de ressources, ce qui est très compliqué pour trouver un logement. Et ensuite, le second problème, c'est que c'est le cas des personnes sans papier. Parce que ces personnes-là n'ont droit strictement à rien, sauf à quitter le territoire français, d'où le QTF. Mais voilà, ce sont ces deux problèmes majeurs dans la problématique des logements pour les personnes étrangères.
Comment vous les réglez et à quel droit, enfin à quel notamment aide on le, enfin je refais ma question, je me suis un peu embourbé. Est-ce que ces étudiants étrangers ont le droit à des aides de la part de l'État ? Alors les sans-papiers, évidemment, on vient de le dire, c'est très compliqué, mais est-ce que les autres, notamment les demandeurs d'asile, est-ce qu'ils ont des aides financières qui leur sont octroyées par l'État, par les collectivités ? Parce qu'on les laisse pas seuls quand même, ces gens-là.
Les demandeurs d'asile, en fait, ils sont dans un organisme qui s'appelle... Enfin, ils sont logés, en fait. Ils sont logés en CADA. Et ils ont une aide. Je ne sais plus exactement comment ça marche. En fait, oui.
Une aide. En fait, dans le parcours du demandeur d'asile, il va être à un moment confronté à ce qu'on appelle les CMA, les conditions matérielles d'accueil, que l'OFI propose. Donc, ces conditions matérielles d'accueil sont constituées d'une aide financière, d'un suivi social et d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qu'on appelle les CADA. Ouais. Et ensuite, les personnes demandeuses d'asile peuvent soit accepter les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire qu'elles acceptent toutes les trois conditions, ou soit refuser, c'est-à-dire qu'ils refusent tout, simplement. Généralement, ils acceptent la place en CADA et l'ADA. Ce qu'on appelle l'ADA, c'est l'aide pour les demandeurs d'asile, ce qui est une aide financière qui tourne autour de 200 euros pour une personne seule. Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ils n'ont pas de place en CADA. C'est-à-dire que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit proposer une place, doit dire à la personne, bon voilà, nous avons une place pour vous, vous pouvez venir. Et tant que vous n'avez pas cette invitation à venir, vous êtes sans hébergement. Et donc, à ce moment-là, votre ADA peut augmenter et peut passer à 300 euros du fait que vous n'avez pas de place en CADA. Mais par ailleurs, parallèlement à ces aides, il y a aussi, dans certains cas, lorsqu'ils sont inscrits à l'université, c'est-à-dire qu'ils disposent du statut étudiant, qu'ils ont une carte étudiante, et les assistantes sociales de l'université peuvent aider à faire ce qu'on appelle une demande ponctuelle, ce qui est une demande d'aide financière, mais qui sera ponctuelle, ce ne sera pas une aide qu'on verserait tous les mois. Et en fonction de la situation de la personne. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas suffisant. 300 euros pour une personne, pour trouver un logement, pour se nourrir, pour se vêtir,
c'est presque hypocrite. C'est mieux que rien, évidemment, mais 300 euros pour vivre, c'est une misère, c'est ridicule.
En sachant qu'ils n'ont pas le droit de travailler.
Oui. Et oui, voilà, donc c'est presque le serpent qui se mord la queue, finalement, puisque pas de papier, pas de travail, je grossis les traits, mais c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts ?
Je sais pas.
Ah. On est prêts.
Et attention, parce que je compte les points. Okay. Première question. Très facile pour le coup, parce qu'en plus, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que l'OFPRA ?
L'Office française de protection des réfugiés et apatrides.
Bravo, 1-0. Est-ce que... non, alors c'est vrai que le sigle est un peu oui, barbare, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement ? Qu'est-ce que fait cette agence ? En fait, c'est l'agence qui recense, qui fait aussi des études sur le nombre de demandeurs d'asile, etc. Mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement ?
C'est une institution administrative, donc qui reçoit en première instance toutes les demandes d'asile et qui va statuer sur la recevabilité, la pertinence de cette demande d'asile. Elle peut accorder ou non le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire. Mais ce n'est qu'en première instance, ce qui veut dire qu'un recours est possible.
Bon, c'est très clair, hein ?
Très clair. Très clair. Efficace.
Alors, deuxième question. À votre avis, combien y a-t-il eu de demandeurs d'asile en France en 2016 ?
Tous les deux ?
Pardon ?
Tous les deux ou...
Le nombre total de demandes d'asile en France en 2016.
Oh là là.
Juste demandes d'asile, hein, y a peut-être... Mais est-ce que vous savez... le plus proche gagne ?
Peut-être 50 000.
50 000, et 50 000. Qu'est-ce que tu dis, ton ami ?
J'en sais rien, j'aime pas ce genre de... En 2016, en
donc,
France,
enregistré du coup à l'OFPRA, hein, on en a parlé, effectivement.
Je dirais... j'en sais rien, ça me met la pression, genre le truc.
Non, toujours pas, tu sèches ?
Je sèche.
Plus ou moins que 50 000, à ton avis ?
Moins.
Et non, la bonne réponse, c'est 85 244. Demande d'asile enregistrée en 2016.
Après, je sais que c'est aux alentours de 10 000 qui sont reçus chaque année.
D'accepter.
Oui, d'accepter.
Donc ça fait un peu plus de 10%. Si mes calculs sont bons. Troisième question. Est-ce que vous savez le nombre, alors estimé, parce que bon, c'est un chiffre rond, mais estimé d'étudiants étrangers en France pour l'année 2015-2016? Une estimation de ce nombre-là.
Je sais que cette année, il y avait 300 000. Pas à 300 000.
300.
Pas mal, pas mal. 310 000.
300 000, ouais.
Ah, on n'en était pas loin. Hey, il est bon, Alexandre. Il maîtrise son sujet. Question un peu plus large qui n'est pas réservée qu'aux étudiants étrangers demandeurs d'asile. Quelle institution a fêté ses 30 ans cette année qui concerne les étudiants étrangers?
C'était pas Erasmus?
Yes. Si. Oh, un point pour Naïmi.
Enfin.
Dernière question qui est la conséquence de cette question sur Erasmus. Combien avait estimé la Commission européenne de bébés nés des couples Erasmus, de personnes Erasmus? C'était il y a 2 ans, ça avait fait pas mal de bruit. C'était une étude très sérieuse de la Commission européenne sur le nombre de bébés qui étaient issus des liaisons de personnes qui étaient en Erasmus.
J'en ai aucune idée, mais ça me dit quelque chose pourtant.
Un chiffre à donner? Alexandre.
5 chiffres ou moins?
5 chiffres, effectivement, 5 chiffres.
Alors, on va se lancer sur 10 000, je sais pas.
Ah non, mais attends, qu'est-ce que t'entends par 5 chiffres? Là, c'est 5 chiffres, c'est un gros chiffre où il y a 5... je dis n'importe quoi. C'est un nombre où il y a 5 chiffres dedans.
Oui.
Donc, forcément, c'est plus que le million, quoi. Je vous ai donné un très gros indice. Non, en fait, la réponse, c'est 1 million. Ils estiment à peu près 1 million de bébés qui sont nés de relations en Erasmus. Voilà, c'était pour... Alors évidemment, ce chiffre est décrié, etc. Et puis, il est de toute façon très difficilement vérifiable. Mmh. Mais c'est pour donner aussi un ordre d'idée qu'aujourd'hui, être étudiant étranger ou aller à l'étranger pour étudier, c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent, beaucoup plus commun qu'à l'époque. Erasmus, on le rappelle, qui a été créé en 1987. Donc, 30 ans cette année. Mmh. Bon, c'était pour le petit quiz. Je crois qu'Alexandre a quand même un petit ascendant. Hein. J'aimerais qu'on reparle du coup de ce service civique. Tu as évoqué tout à l'heure, Alexandre, en antenne, qu'il fallait insister sur la création de services civiques, justement, d'accompagnement des étudiants étrangers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, puisque c'est une mission qui a été créée récemment?
Oui. Ça a été créé récemment, du coup, par. Ça a été à l'initiative de monsieur Thomas Tullier, l'ancien vice-président chargé de la vie étudiante de l'Université de Tours. Et cette mission existe depuis février 2017. Donc, il y avait 2 volontaires en service civique avant nous,
Isabelle et Marie-Lou.
Ouais.
Si elle nous écoute.
Ouais.
Big up.
Ah, voilà,
ça veut dire la même chose.
Exactement.
Du coup, la durée de leur mission était de 6 mois. Et il y a eu 1 mois de tuilage entre elles et nous au mois de juillet, du coup. Et nous avons repris cette mission à partir de là. Et c'était vraiment enrichissant parce que elles nous ont vraiment appris tout ce qu'elles savaient. Et du coup, elles avaient déjà fait un travail de débroussaillage. Au départ, aller se présenter dans les autres structures, ce qui nous a facilité la tâche par la suite. Et nous, on espère faire la même chose aussi.
Oui, avec les prochains.
Ouais.
Ouais, de leur faciliter la tâche. Est-ce que c'est des missions qui sont encore trop rares en France ou est-ce que vous savez si ça existe aussi ailleurs qu'à Tours?
Je pense que c'est encore vraiment rare en France, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations existe des missions comme ça au sein d'une université, je pense que à
Tours.
Et
en plus, ciblé sur les demandeurs d'asile et réfugiés, parce que l'intitulé exact de notre mission, c'est ça, c'est l'accompagnement des étudiants demandeurs d'asile et réfugiés. Donc peut-être qu'on reçoit des étrangers en général, mais c'est pas l'intitulé de notre mission.
Est-ce que selon vous, il faut que les universités françaises fassent l'effort pour intégrer leurs étudiants étrangers par ces missions-là ou par d'autres moyens, c'est pas les seuls moyens qui existent, mais est-ce que vous pensez que les étudiants étrangers en France sont un peu délaissés?
Oui, je pense. Pas forcément délaissés, je pense pas qu'il y ait une volonté de délaisser ces étudiants, mais je pense qu'ils sont concrètement perdus, quoi.
ou mal pris en charge.
Oui. Un exemple dont on parle souvent, c'est la comparaison entre étudiants internationaux d'échange, Erasmus, qui sont chouchoutés, vraiment pris, très bien pris en charge par l'université, par les services des relations internationales de l'université. Et alors que les étudiants étrangers, du coup, n'ont pas le même suivi, n'ont pas le même type d'encadrement. Ce qui fait qu'on part avec un gros désavantage dès le départ. Et d'où la volonté aussi de créer cette mission, parce que ce besoin a été ressenti. Et c'est une bonne idée, étant donné le nombre de personnes qu'on a pu aider depuis seulement 3 mois.
Oui, parce que c'est vrai, Erasmus, pour le coup, profite peut-être aussi d'un peu de prestige autour de ça, et que du coup, voilà, les gens ont tendance à plus facilement les intégrer. Est-ce que vous avez... comment dire ? Non, est-ce que vous construisez une autre relation aussi avec les étudiants que vous aidez, plutôt amicale ? Parce que j'imagine qu'à force de les aider aussi, et d'être, bon, peut-être pas tous les jours, mais d'être régulièrement à côté d'eux, est-ce que vous construisez pas aussi autre chose comme relation ?
Si, c'est sûr.
Pour info, il y en a un qui a pris nos Facebook.
Ah.
Non, mais oui. Parce que... ils sont amenés, en fait, lorsqu'on les reçoit, on est moins administratif que les autres services qu'ils ont pu rencontrer, ce qui fait qu'il y a cette proximité, ce qui les emmène à se confier à nous, à parler des choses beaucoup plus intimes et des choses qu'on ne devrait pas savoir aussi.
On nous a dit une fois que justement, on nous a dit des choses dans le bureau et après la personne nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait qu'à nous qu'il avait dit ça. D'accord. Parce qu'il se sentait bien...
Oui, parce que c'est aussi une question d'âge. Je ne vous ai pas demandé votre âge, mais j'imagine que vous avez à peu près le même âge que ces étudiants.
À peu près.
Moi, j'ai 20 ans.
Et moi, 22.
Donc, ces étudiants ont entre 20 et 22 ans.
Non, à peu près. On rencontre des étudiants qui ont 42 ans.
Oui,
d'accord.
Beaucoup plus,
En fait, ils sont beaucoup plus âgés que nous, en général.
Oui, ok. Vous avez évoqué le fait qu'ils se livrent aussi, que ces personnes-là se livrent. Est-ce qu'elles vous racontent un peu leur passé, leur passé dans leur pays, comment elles sont arrivées en France, etc.
On m'a raconté, oui, plusieurs fois.
Plusieurs fois. Ils se confient à vraiment cette confiance.
On arrive
à les mettre à l'aise.
Ils ne le font pas facilement et pas automatiquement.
Non. Ils ne le font pas facilement.
Mais je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont besoin de le faire et heureusement que...
Qu'on est là.
Enfin, heureusement qu'on est là. Mais je ne sais pas en tout cas, mais si on peut leur apporter un peu de réconfort ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, s'ils ont besoin de se confier et que...
Et surtout, ils ont compris qu'on n'est pas là en fait pour divulguer ces informations à la préfecture ou quoi, ou parce que c'est pas notre travail, c'est pas notre rôle. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont particulièrement marqué? Est-ce que vous aussi, votre point de vue a évolué avec l'accompagnement de ces personnes-là? Parce que c'est aussi s'ouvrir au monde, mais s'ouvrir aussi à une autre façon de penser, et puis à des histoires complètement folles, parfois tristes, etc. Comment vous avez-vous évolué mentalement et qu'est-ce qui a changé chez vous avec cet accompagnement ?
Je ne suis pas sûre que quelque chose ait changé en fait. Je pense que pour ma part, Non, je ne pense pas que ça ait changé. Après, il y a des histoires qui m'ont touchée, oui, ça c'est sûr. Voilà, après, je pense que à la fin de ma mission, je pense que j'en ressortirai grandi, vraiment. Mais changer d'opinion ou quoi que ce soit, non, toujours la même.
Moi, ce qui m'a, pour ma part, ce qui m'a enfin, un peu choqué, non, parce que je m'y attendais aussi un peu, c'est cette volonté, cette pression au niveau de la famille, des personnes que l'on rencontre, de vouloir inciter les gens à faire absolument une demande d'asile.
Pardon, j'ai toussé.
À faire une demande d'asile alors que même ça n'aurait pas de chance d'aboutir. Et moi, ce sont des choses qui m'agacent et qui m'atteint particulièrement parce que après, lorsque ça n'aboutit pas, la personne risque d'être déboutée du droit d'asile, donc recevra une OQTF. Donc, cette situation va se compliquer, mais elle va être pire que celle qu'elle était initialement. Donc après, je sais pas ce que nous on peut faire. On peut juste conseiller par rapport à ça, mais on n'a pas.
Et oui, parce que finalement, vous êtes, vous pouvez les aider, mais vous êtes impuissant. Impuissant finalement.
Bah, quand, quand ça touche à des histoires personnelles, familiales et tout ça, nous on peut pas s'en mêler, ça c'est sûr. Tout ce qu'on peut faire, c'est écouter, réconforter, mais à part ça.
Et conseiller.
Oui, voilà, et conseiller.
Est-ce que selon vous, c'est la dernière question, après je vous libère, mais pour moi elle est fondamentale. Est-ce que selon vous, la France accueille assez d'étudiants étrangers ou autorise assez de demandes d'asile et accepte assez de demandes d'asile?
Veto.
Ouais, c'est compliqué.
Joker. Si je devais... Non, mais c'est aussi un débat parce que c'est vrai que bon, on voit des pays comme l'Allemagne qui maintenant ouvre leurs frontières aux immigrés
pour des raisons politiques.
Pour des raisons politiques, certes, mais les faits sont aussi là. Ils accueillent quand même. Ils accueillent
parce qu'ils en
des
ont
gens.
Besoin.
Oui. Et pourquoi la France n'aurait pas besoin de ces gens-là
aussi, quand même.
Pourquoi la France n'aurait pas besoin de ces gens-là?
Ah bah ça. C'est un autre débat. Après, nous, on est à l'échelle de Tours. Donc, je ne sais pas si notre avis sera assez objectif, mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ouais, c'est vrai que c'est une question, délicate.
Ouais, honnêtement, je pense qu'on pourrait vraiment faire beaucoup mieux que ce qui est fait à l'heure actuelle. C'est tout ce que je dirais. Je vais en rester là.